France Inter, Ali Badou, 15 minutes de plus.
15 minutes de plus et ce matin, j'ai le bonheur de recevoir une icône française du design. Elle a conçu de nombreux objets, des objets du quotidien, mais pas seulement. Elle a collaboré avec des marques de très grande consommation et elle a aussi travaillé avec des artistes et des créateurs très exigeants. Elle a imaginé des objets que l'on expose dans les plus grands musées et certains de ces objets se trouvent même dans le mobilier de l'Élysée aujourd'hui. Bonjour Nathalie Crasset.
Bonjour.
Et bienvenue, ravi de vous rencontrer. Vous savez qu'on commence toujours l'émission avec une expérience de pensée. C'est une expérience qui est quasiment universelle. On est assis, affalé dans son canapé. Les Américains ont même un mot pour qualifier ça. Couch potato, on devient une patate de canapé. Vous, vous avez conçu votre premier sofa il y a 25 ans. De quoi est-ce qu'on fait l'expérience quand on est à votre place? Non pas du côté de la patate, mais du côté de celle qui dessine, conçoit, imagine, quand on fait l'expérience du canapé.
Oui, alors notre métier en tant que designer, enfin la façon dont je le vis, c'est d'être un peu un anthropologue appliqué. Donc on va regarder la situation et puis on va trouver une intention particulière. C'est pas du tout l'idée de choisir une forme ou un confort, mais c'est aussi prendre position par rapport à ce qu'on dessine. Et en regardant l'évolution du canapé, je me suis aperçue qu'en fait, c'est un objet qui a été dévoyé. On a mis la télé devant. Avant, c'était un objet de salon, en fait, pour discuter ensemble, être ensemble. Et puis, d'un seul coup, la télé est arrivée. Et donc, je me suis dit que c'était quand même quelque chose d'assez intéressant de voir ce phénomène. Et en plus, c'est un objet qui devient un objet de statut. Donc, on essaie d'avoir un canapé en cuir pour montrer à son voisin qu'on a un peu les moyens, en quelque sorte. Et on va interdire, finalement, aux enfants de jouer dessus. Donc, vous voyez, c'est un objet qui a complètement vrillé, dans mon sens. Donc, c'est pour ça qu'au début, j'ai refusé de dessiner des canapés et que j'ai proposé un canapé qui était constitué de modules, de poufs, dans l'idée de dire, s'il y a des copains qui arrivent à la maison, ben, je vais pouvoir avoir plus de place et je crée un confort, je dessine un espace.
Il avait un drôle de nom, d'ailleurs, ce canapé.
Oui, alors, il s'appelait Digestion, parce que le premier canapé...
Digestion,
c'était l'idée aussi d'utiliser les sacs qu'on appelle tati ou barbès, en fait, et de mettre de la mousse dedans, parce qu'il y avait ces poignées, en fait, qui nous invitaient, en fait, à bouger, à les déplacer dans l'espace.
Faire un canapé pour les adultes, mais aussi un espace de jeu pour les enfants, c'est assez fascinant, votre manière d'aborder votre travail, parce que vous revendiquez une conception quasiment ludique.
Oui, ludique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, tout le monde me disait à un moment donné, mais ton design, il est ludique, et je n'aimais pas trop cette appellation. Puis, j'ai une amie qui m'a dit, mais de quoi tu te plains ? Ludique, ça veut dire expérimenter le monde, en fait. Alors là, j'ai dit, oui, ok, c'est ce que je propose.
Quand on joue.
Voilà. Et donc, ce canapé qui s'appelle Permis de construire, et ce n'est pas anodin, c'est le fait de dire qu'on peut s'en servir de canapé, mais... Quand on ne s'en sert pas de canapé, les enfants vont pouvoir le disloquer et c'est constitué de frites, pour donner une image à chacun. Et on les empile, mais ça va être
mousse.
Un jeu de construction à échelle pour les enfants quand on n'a pas, besoin du canapé. Et voilà, cette idée de dire que l'espace en fait, à la maison, il est rare, on l'a vu pendant le Covid. Et en fait, de pouvoir dégager l'espace du canapé, ça donne beaucoup de place pour faire d'autres choses.
Derrière votre travail, il y a toute une philosophie. Vos objets, on a l'impression qu'ils ne sont pas figés. Ce ne sont pas justement des objets, des choses réifiées, définitivement faites de telle manière. Les canapés, par exemple, peuvent se démonter pour devenir des poufs. Et vous dites que c'est l'utilisateur qui doit avoir le choix de l'usage final d'un objet. C'est curieux de vous en remettre à celui qui va acheter ou utiliser ce que vous avez créé en lui laissant une totale liberté.
Alors, c'est pas total, en fait. C'est un potentiel que je donne. Je travaille plutôt avec ce que j'appelle des scénarios de vie. Donc, c'est pas l'idée de travailler sur une fonction bien particulière, mais plutôt proposer un potentiel à un moment donné, dans la journée, voilà, on va s'asseoir. Et à partir de cette situation-là, comment on peut ouvrir et proposer un système, une structure qui va permettre à chacun d'inventer le quotidien.
Et ce qui est assez génial, Nathalie Crasset, c'est que vous réinventez justement les objets du quotidien. Il y a des objets accessibles au plus grand nombre. Tenez, écoutez ce son. c'est un jingle qu'on a tous entendu. Vous avez imaginé une lampe pour la marque suédoise. Pourquoi est-ce que cette collaboration, pour vous, elle avait du sens, au-delà de rendre le design accessible et non pas réservé aux Happy Few?
Alors, c'était un programme un peu particulier. IKEA a des designers intégrés et là, ils invitaient en fait d'autres designers. Et le projet, c'était d'aller visiter les entreprises de fabrique où étaient fabriqués les objets. Donc, je suis allée en Chine une semaine et j'ai visité et j'ai choisi l'entreprise avec qui je voulais collaborer. Donc, ça, c'était un peu particulier. Et j'ai décidé de faire une lampe. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la lampe, on pouvait la faire portable, on pouvait la faire aussi autonome en rendant tout ça accessible. Et surtout, je me disais, les composants sont réduits maintenant très très fort, donc on n'a presque plus rien en main. Et en fait, nous, on est habitués à avoir un objet.
Oui.
Donc, est-ce qu'on ne peut pas faire en fait une lampe qui est intermédiaire, qui est en train de disparaître, mais quand même qui va signifier voilà. Et je me suis dit, c'est quelle est la lampe qu'on porte dans l'imaginaire collectif et c'est la lampe du cheminot.
C'est
la lampe du cheminot. Donc en fait, la lampe est toute petite au centre, mais elle est entourée d'une trace en fait d'un objet qui est la lampe de cheminot qui va nous permettre de la porter et de la recharger, etc.
Et vous avez travaillé, je le disais, donc avec une ambition toute simple mais complètement folle quand on y réfléchit, quand l'un des plus grands pâtissiers au monde, Pierre Hermé, vous demande de réinventer le couteau à dessert. Comment est-ce qu'on peut réinventer un objet aussi commun que le couteau, qui doit être aussi vieux que l'humanité, ou en tout cas l'un des objets les plus anciens au monde?
Oui, en effet, c'est un des premiers outils de l'homme. Là encore, l'idée est de dire, certes, ce couteau, il doit couper le gâteau, mais moi, ce qui m'importe plus, c'est pas de le couper, mais c'est de le partager. Donc, en fait, ce couteau, on fait un quart de tour de la main, il devient la pelle à tarte, tout simplement. Donc, vous voyez, c'est bien un scénario d'usage. Je travaille sur ça, sur les scénarios de vie et les scénarios d'usage. Et ça, c'est l'exemple concret. En fait, aujourd'hui, on a deux objets, on peut en avoir qu'un. Et on travaille sur une fluidité d'action. Donc, les objets, ils sont là pour accompagner et surtout réinstaller des intentions. Voilà, le partage, l'hospitalité, voilà, toutes ces notions-là qui sont importantes.
Même pour des marques qui sont installées et qui ont une histoire et qui ont une identité, comme L'Aïeul, par exemple.
C'était
pour rester
dans
le domaine des couteaux. Nathalie Crasset, il y a une œuvre qui vous a fait connaître à travers le monde et pour le coup, c'est vraiment une œuvre qui parle de l'hospitalité. Elle a un nom. Quand Jim monte à Paris, alors on ne sait pas qui est Jim, mais on a tous un Jim qui pourrait venir un jour ou l'autre passer la nuit chez soi. C'est une œuvre qui a été exposée à Milan, la capitale du design mondial. Quand un ami débarque chez vous et qu'on veut l'héberger, vous avez une solution qui est loin, très loin du lit d'appoint ou en tout cas du lit convertible, du canapé convertible.
Le fameux clic-clac.
Pourquoi ?
Parce qu'en fait, on n'a pas forcément... Je voulais créer une structure spécifique. Le clic-clac, on l'utilise comme canapé, puis après, on va ouvrir. Et je trouvais que ce n'était pas assez dans le geste de générosité, d'hospitalité. Donc, je fais une colonne assez simple qui fait 35 sur 35 de largeur sur 2 mètres de haut. Et on va la basculer. On ouvre, ça devient le sommier et dedans il y a un matelas roulé. Et voilà, ça va donner avec une petite lampe, un petit réveil matin, la capacité de créer un espace, même si on n'a pas une chambre d'amis, on va faire ce geste de générosité. C'est le premier mobilier que j'ai dessiné parce qu'en fait je me disais comment je peux trouver quelque chose qui fait sens et qui va apporter quand même à la vie de tous les jours.
Et qui va permettre d'habiter.
Voilà. Et quand Jim monte à Paris, c'était justement le début du scénario, puisque quand on regarde l'objet, on a du mal à comprendre en fait de quoi il s'agit. Il faut le voir ouvert. Donc voilà. Donc c'est aussi cette idée d'inviter à continuer l'histoire.
Et j'invite les auditeurs à aller sur votre site parce que justement, ça permet de découvrir et de voir ce que vous imaginez, ce que vous créez. Écoutez ce son-là, c'est le son d'une femme qui a marqué l'histoire du design. Elle en a été une pionnière et elle a produit des chefs-d'œuvre. Charlotte Perriand.
Mais il n'y a rien de plus difficile à faire qu'un siège. Les fauteuils jusque-là étaient faits d'ossature de bois, de crin, de sangle, etc. Grâce aux techniques nouvelles, on a pu faire des choses nouvelles. Qu'est-ce qui peut amener des choses nouvelles ? C'est des matériaux nouveaux, c'est des techniques, ce sont des nombres aussi. Et puis, c'est notre comportement.
Charlotte Perriand, il n'y a rien de plus difficile à faire qu'un siège. c'est quelque chose que vous pourriez dire.
Oui, mais en fait, moi, je ne travaille pas avec les contraintes. Ce n'est pas l'idée de les dépasser. Il y a encore cette idée de dire que, justement, le siège, il peut apporter... Qu'est-ce qu'on apporte aux gens, en fait, à travers aux personnes, dans l'usage, dans la vie quotidienne. Donc, par exemple, un siège que j'ai dessiné, c'est de dire, en fait, on va être assis, normalement, puis à un moment donné, on va pouvoir écrire, on va pouvoir poser son ordinateur. Donc, en fait, le dossier se bascule, on se retourne et on a une assise et un plan pour poser. Vous voyez, voilà, ça c'était un peu l'idée de dire de pouvoir changer d'attitude. Et voilà, ou un autre, par exemple, j'ai remis en question le fauteuil parce que je me suis dit, mais oui, ces accoudoirs, en fait, ils sont à quoi ils servent? Et j'ai eu cette intuition que c'était pas bon pour le dos non plus. Donc en fait, plutôt que de faire des accoudoirs, je m'enfonce dans le confort et je donne un siège vraiment pour lâcher prise. Et en fait, les accoudoirs, ils sont apparus comment? Ils sont apparus dans l'histoire pour faire la différence entre ceux qui en ont et ceux qui n'en ont pas. Et donc, c'était le maître qui avait une chaise avec accoudoir. Vous voyez, donc, on va dire, il y a aussi ces constructions qu'il faut quelque part questionner, quelquefois.
Le 15 minutes de plus se termine toujours avec la morale de l'histoire. J'ouvre les guillemets. Le design n'est pas seulement ce à quoi ça ressemble. Le design est comment ça marche. Je ferme les guillemets, c'est de... Steve Jobs.
Oui, peut-être, oui.
Vous êtes d'accord avec lui?
Non, pas du tout. Le design, c'est un dû, en fait. On doit aller beaucoup plus loin que ça. Et aujourd'hui, le design, c'est peut-être aider à retomber amoureux de notre monde abîmé. C'est un grand programme, mais c'est vraiment ce dont il s'agit. Et peut-être une deuxième notion, c'est une idée, une pensée, elle devient une idée quand elle propose une secousse. Donc moi, j'aimerais être designeureuse de secousse.
Designeureuse de secousse, c'est une très belle définition de votre métier. Merci infiniment, Nathalie Crasset, d'avoir été l'invitée d'Inter et du 15 minutes de plus.